wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Laura Capel, Marie Sorbier, Florian Guettet. Nous allons parler ensemble d'un double programme. Les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre, d'Ivan Beripaïev, associé à l'affaire de la rue de l'Oursine d'après Eugène Labiche. C'est une mise en scène de Frédéric Bellier-Garcia. Nous parlerons d'Infini de Boris Charmatz. Nous parlerons des Mille et Une Nuits, création de Guillaume Vincent d'après les contes des Mille et Une Nuits. Et il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour Cécile. On gardera pour plus tard le nom de famille, Cécile de Marion Duval. Nous ouvrons cette dispute avec Les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre et l'affaire de la rue de l'Oursine. Distribution de haut vol pour un spectacle à double programme, donc, puisque le metteur en scène Frédéric Bellier-Garcia réunit Camille Chamou, Stéphane Roger, Jean-Charles Cliché, Sébastien Evenot, mais aussi deux comédies grinçantes, paranoïaque surtout, écrite à plus d'un siècle de distance. Dans les deux pièces, même soupçon paranoïaque qui va mettre à mal les relations entre les différents personnages. On va entendre ici un extrait de la première de ces deux pièces, celle signée Ivan Viripaïev.
Martin est capable de beaucoup, beaucoup de choses. Elle s'est même révélée capable de manger son propre doigt.
Tu disais que cette métaphore étrange, Donald.
Mais c'est pas une métaphore, c'est une expérience que nous avons vécue, Martha et moi, un jour.
De quoi ? De quoi ?
Bah, enfin, tu n'ignores pas qu'il manque à Martha un doigt à la main droite. Elle n'a plus d'index. Elle l'a perdu dans sa jeunesse. C'est arrivé dans un accident survenu à son travail.
Je n'ignore pas cette histoire-là, Donald.
Bah, enfin, tu n'ignores pas que nous avons mangé son doigt.
Mais enfin, Seigneur, si, bien sûr que si. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes là, Donald ?
Bah, enfin, tu comprends, quand elle a eu cet accident, elle s'est retrouvée à l'hôpital et là-bas, ils l'ont amputée de ce doigt. Et alors, Martha a demandé au chirurgien de lui rendre ce doigt coupé. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Probablement à cause du choc. Et la voilà qui revient de l'hôpital à la maison avec son doigt coupé. Et ne sachant pas quoi en faire, Martha a mis son doigt dans le réfrigérateur. Et c'est là que je l'ai vu. C'est là que je l'ai découvert. Et tu vois, en voyant là ce doigt, deux pensées me sont venues en tête. La première, c'est un banal morceau de viande à côté d'un autre morceau de viande. Et à cette époque, nous n'étions pas encore végétariens. Et dans le réfrigérateur, à côté du doigt, était posé un gros morceau de bœuf congelé. Viande et viande. Et donc, à ce moment-là, la deuxième pensée qui m'est venue en tête, c'est « Je vivrai toute ma vie sans jamais connaître le goût de la viande humaine. » Eh oui. Comment on peut imaginer qu'une telle occasion puisse se représenter à moi ? Puisque je... où trouverais-je de la viande humaine ? Puisque je ne suis pas un assassin. Et voilà comment j'ai eu l'idée de goûter de l'humain. Et alors, j'ai raconté ça à Martha, et à ma surprise, elle a été tout de suite d'accord. Et voilà comment nous avons mis à cuire son doigt. Et d'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que nous avons décidé de devenir végétariens.
Voilà pour cet extrait. On l'a entendu surtout Stéphane Roger, un peu Camille Chamou. Ils sont quatre sur scène, trois surtout, hein, Jean-Charles Cliché complétant le trio de la première pièce. Et Sébastien Evenot venant faire un majordome. Évidemment, toujours particulier chez Labiche dans la deuxième pièce de la soirée. Premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment sur cette soirée, Florian Guettet.
Deux textes inégaux et puis peut-être un ensemble qui manque un petit peu de piquant.
Laura Capel.
Pour moi, un diptyque inquiétant, dominé par ces fameuses guêpes qui piquent encore.
Marie Sorbier.
C'est un vaudeville chic, mais dans lequel je ne me suis pas vraiment sentie concernée.
Ah, alors Florian Guettet d'abord, pour qu'on ait quelques images, décrire l'espace de jeu.
Le décor commence en fait avant même le début de la pièce, puisque quand on rentre le public, nous avons les acteurs qui sont en train d'agencer les différents éléments de mobilier, et on nous prévient que ce n'est pas encore le début du spectacle sur un paperboard. Petit à petit, ils viennent constituer un salon bourgeois, plutôt en intérieur cossu, avec un design peut-être années 50, 60, qui est une sorte de, peut-être de moyen terme entre la pièce de la Biche, qui est de 1857, et la pièce la plus contemporaine, qui est de 2012, et le tout est assez en adéquation avec les personnages qui sont eux-mêmes dans des tenues plutôt élégantes, donc costard, cravate et robe moulante. Donc cette grande banquette centrale qui est donc verte olive, qui est capitonnée, est placée au centre de la pièce. Il y a au-dessus un plafonnier à franges, avec à l'intérieur une grande boule à facettes. Et on a évidemment une table basse hein, pour compléter ce salon. C'est un décor en gros parfait pour accueillir ce huis clos. On sent bien que ça va se tourner autour d'une discussion plutôt amicale ou même domestique. En tout cas, un huis clos ou quasi un huis clos, puisqu'il y a quand même les pendrillons sur les côtés qui vont faciliter comme ça les allées et venues qui sont assez chères à l'esthétique du vaudeville. Et puis on a des accessoires. On a deux micros qui sont posés sur la table, et puis un paperboard qui vont être assez inutiles en fait, ou en tout cas qui n'auront pas de raison ou de nécessité dramaturgique première. Et ça, c'est finalement aussi ce qui vient caractériser l'arrière-scène, puisque le plateau est scindé en deux, et à l'arrière-scène on a une scène justement avec une paire de rideaux de théâtre rouge assez tombant, et dessus un piano, une batterie et un micro, là encore type années 50, pour venir appuyer cette entre-deux, on va dire, des deux pièces. Et puis ensuite, quand on passe à la seconde pièce, eh bien, le changement de décor se fait à vue. Cette fois, on a une sorte de grand drap qui va tomber en chapiteau, qui va venir délimiter un intérieur qu'on ne verra jamais, qui est donc la chambre, et puis un extérieur qui est la pièce à vivre, le salon ou la salle à manger. Ce drap va tomber un moment, il va redécouvrir le salon, le même salon qu'on a vu dans la première pièce, mais réarrangé cette fois différemment, comme toujours, pour mieux souligner cette accointance entre les deux pièces.
Très bien, pour cette description, on a quelques images, passons à cette dispute. Laura Capelle.
Alors, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce spectacle, c'est la découverte de la pièce d'Ivan Viripayev qui ouvre le spectacle. Donc, on est sur
deux pièces. Une heure.
Voilà, exactement. Les deux pièces sont jouées l'une à la suite de l'autre, sans entracte. On passe directement à la Biche après Viripayev. Mais celle de Viripayev m'a beaucoup marquée. Alors, je crois qu'elle a été créée à Moscou en 2013, si je ne me trompe pas. Elle met en place une espèce de fausse enquête qui n'aboutira jamais. Je pense que ce n'est pas divulgâché que de le dire, qui flirte avec l'absurde. En gros, ce qui se passe, on est dans le salon de Sarah et Robert qui accueillent leur ami Donald. Et très vite, on comprend que la question centrale qui va peut-être dominer le spectacle, c'est celle d'un personnage qui s'appelle Marcus, qui est donc le frère de Robert. Sarah prétend que Marcus était avec elle le lundi précédent, tandis que Donald prétend qu'il était chez lui, avec sa femme. Et donc, tous les deux partent sur cette idée, essaient de prouver leur version des faits en appelant des témoins, qui donnent des versions contradictoires de la situation. On tombe très rapidement dans l'absurde, et en fait, on se rend compte qu'on n'aura jamais la solution, mais ça instaure une atmosphère un petit peu grinçante, inquiétante, qui du coup flirte constamment entre une situation bourgeoise conventionnelle très simple et de l'autre côté une absurdité qui finit par dévorer en un sens la conversation.
Peut-être qu'on reste un instant sur cette première pièce pour faire un premier tour de table sur elle. Marie Sorbier.
Oui, moi j'ai été aussi très heureuse de la découvrir, c'est une pièce que je connaissais pas, alors qu'évidemment l'affaire de la rue de l'Oursine, on la connaît mieux, elle est quand même très souvent montée, c'est la pièce un peu iconique de la Biche, et j'ai trouvé, moi ce qui m'a intéressée en fait, c'est la confrontation des deux, parce que séparément, ça m'aurait peut-être moins intéressée, j'allais dire intellectuellement parlant, dans la construction des pièces.
Mais... Donc l'affaire de la rue de l'Oursine, pour résumer, deux amis se réveillent ivre-mort un matin... Sachant pas, il y a un blackout hein, de fait de beaucoup d'alcool et ils vont croire, d'après la lecture du journal, qu'ils ont peut-être commis un crime.
Exactement.
Donc voilà, c'est pour résumer un peu comment on l'a fait pour la première.
Et j'ai trouvé que les deux constructions de ces pièces, qui sont donc des fausses enquêtes, dans la première comme dans la seconde, se répondaient assez bien, notamment sur la noirceur de ces deux pièces, qui sont souvent, parfois pour la Biche, montées uniquement dans des termes comiques. Et j'ai trouvé que la résonance avec Viripayev, qui est quand même plus noire, ou qui est plus en profondeur, qui va sonder des couches un peu différentes, rendait grâce aux deux pièces. Mmh. Donc cet assemblage-là, j'ai trouvé ça assez intelligent de la part de Bélé Garcet de les mettre ensemble et de les faire résonner ainsi.
Il n'a pas l'air tout à fait d'accord, Florian Guettet.
Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, cette articulation, elle me semble presque contradictoire. Il y a quelque chose, en fait, dans la pièce de Viripayev qui est vraiment de l'ordre de l'absurde, plus peut-être d'ailleurs Ionesco que Beckett. Mais en tout cas, un absurde qui vient nous révéler nos angoisses, nous mettre face à nos angoisses, etc. Tandis que chez La Biche, on est véritablement du côté du divertissement, presque au sens pascalien, c'est-à-dire de ce qui vient nous divertir, nous empêcher de penser à toutes ces angoisses-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'en voulant chercher un moyen terme, il a tiré la première pièce du côté vraiment de presque gaguesque, croquignolesque, un petit peu, en tout cas, avec une sorte de comique très très appuyé, alors qu'il y a des phrases qui sont, enfin, des contenus de discours qui sont complètement sombres. Je veux dire, on parle quand on a le Donald qui nous fait toute une tirade sur la fatigue d'être en vie, d'être tout simplement.
D'être tout le temps avec soi-même.
Bien sûr, le temps, la pluie qui passe, le chant des oiseaux, le repas, manger, enfin tout ça est difficile. On a ce mari qui se retrouve deux fois acculé face à des révélations d'adultère. Enfin bon, on a quand même une sorte de gravité en fait dans la première pièce qui me semble pas exactement servie par la confrontation avec cette pièce de La Biche, parce que La Biche va pousser le jeu et l'interprétation du côté de quelque chose de plus humoristique et un peu plus de légèreté qui moi m'a un peu laissé sur le côté.
Peut-être fallu couper la résolution de l'affaire de la rue de l'Oursine pour rester sur quelque chose de plus noir. Après tout, ils jouent avec. Hein, c'est vraiment d'après Eugène Labiche, parce que là, si tout est de Labiche de ce qui est dit, il y a quand même aussi je sais plus quel est le mot que je voulais employer, en tout cas des détours. Laura Capel.
Oui, je suis assez d'accord avec Florian. Peut-être en voyant, moi je vois plutôt des effets négatifs chez Labiche, justement, plutôt que dans la première pièce. Peut-être aussi parce qu'on la connaît moins bien et que donc du coup, le plaisir de la découverte faisait que malgré tout j'ai aimé la découvrir. Et dans l'affaire de la rue de l'Oursine, du coup le fait d'imposer un jeu qui n'est pas exactement le même mais qui est quand même dans la continuité de ce qui s'est passé dans la première pièce fait que ça impose une atmosphère à La Biche qui n'est pas très naturelle pour moi, ce type de pièce, dans le sens où effectivement il y a un mystère, il y a un côté sombre chez La Biche dans cette pièce particulièrement, mais en fait, il y a jamais de doute dans cette pièce. On sait très bien que, en fait, ils n'ont pas commis le crime. C'est dit dans la pièce très rapidement. Et donc, du coup, il n'y a pas cet effet de suspense qu'on retrouve dans la première pièce. Et ça m'a gêné dans la deuxième. On comprend pourquoi il a voulu associer les deux, je pense, comme le disait Marie. Mais je ne suis pas sûre qu'il maîtrise complètement les effets, on va dire.
Marie Sorbier.
Le grand intérêt aussi de ces pièces-là. Je fais juste un aparté sur la pièce dont on avait parlé ici il y a quelques mois, aussi montée par Bélé Garcet, qui était également un diptyque avec quasiment les mêmes acteurs, puisqu'on retrouvait ce couple aussi un peu en délitement avec Jean-Charles Cliché et Camille Chamou. Et j'ai vu vraiment une suite de travail chez Bélé Garcet entre ces deux pièces-là qui étaient d'un auteur...
Je suis en train de chercher moi-même.
Frédéric Bradberg.
Ah voilà.
Voilà.
Frédéric, vraiment.
Qui était aussi une découverte
d'un auteur contemporain lui aussi. Oui.
Les deux pièces étaient du même auteur, mais il y avait quand même déjà ce goût pour l'absurde. C'était des pièces qui étaient drôles, mais très noires.
Oui. Et pas très drôle, hein.
Oui, il y avait, mais toujours ce côté un peu comme chez Viripayev, c'est-à-dire que cette apparence de comique, mais qui en fait draine des flux assez noirs derrière. Et je trouve que ces acteurs-là, en tout cas moi j'ai un vrai coup de cœur pour Jean-Charles Cliché, que je trouve très juste tout le temps, et justement qui va dans cette noirceur chez La Biche, et cette pièce de La Biche, moi, m'agace plutôt quand je la vois monter de son côté vaudevillesque, un peu évident, comme ça, me peine un peu, et là, je crois que c'est une des premières fois que je me dis, bon, il a essayé de l'emmener ailleurs, alors en résonance avec la première, alors peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, je veux bien l'entendre, mais il y a eu au moins un intérêt nouveau à la réécouter, ce qui est déjà finalement pas mal.
Florian Guettet.
Oui, mais c'est encore la question, parce que si la première pièce, bon, qui est plus récente aussi, j'arrive vraiment à les ancrer dans des enjeux très actuels sur notre rapport aujourd'hui au discours, sur rapport au témoignage, sur notre rapport à la véracité, au vraisemblable, à la vérité, autant la pièce de La Biche me semble pas du tout poser ces questions-là, puisqu'en fait, c'est presque un oubli coupable, une amnésie qui est suite... c'est un quiproquo. Bon, alors que la première, déjà, on n'aura jamais de résolution, que finalement, on va à la fin, sans la dévoiler, j'imagine. Alors, sans la dévoiler, en tout cas, on s'accorde sur une forme de résolution un peu éphémère, ou en fait, qui arrange tout le monde et qui n'est presque sans conséquence, puisque ça rejette la responsabilité sur quelqu'un d'autre, enfin, sur quelque chose d'autre, pour être plus précis. Et cette confrontation là me semble beaucoup plus pertinente, quoi. C'est-à-dire que dans la première pièce, on a toute une sorte de dilemme intellectuel, moral autour de qui croire et comment accepter le paradoxe. Est-ce que parce qu'on est croyant, on peut accepter le paradoxe? Est-ce que si on s'intéresse à la psychologie, on peut accepter l'illogisme? Est-ce que si on croit simplement ses amis et les personnes et l'expérience vécue, le paradoxe se lève? Donc c'est des questions qui moi aujourd'hui résonnent beaucoup pour moi. Quand je suis passé sur l'habit, je me suis retrouvé vraiment dans une sorte d'artifice, enfin en tout cas je me suis plus senti concerné, pour reprendre un terme de Marie tout à l'heure.
Oui, mais alors peut-être que ça permet aussi de goûter, en tout cas c'était absolument mon cas, le plateau réuni, parce que je trouve qu'il y a quand même une alchimie qui fonctionne merveilleusement entre Jean-Charles Cliché, Camille Chamou, Stéphane Roger, que moi j'ai pris énormément de plaisir à voir, d'abord en découvrant cette pièce de Viri Païef, Les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre, avec le titre me réjouissait déjà d'avance, mais j'étais tout à fait, moi j'adore ce type d'écriture, ce type de situation, et moi je voudrais quand même savoir où était Marcus, mais bon ça c'est une autre histoire, j'attends la suite. Les guêpes de l'été nous piquent encore en février, qui sera bientôt joué à la Tempête. Non mais plus sérieusement, il y a une vraie alchimie entre ces trois-là. Bon, Stéphane Roger, il y a un tel potentiel perturbateur quand même, que à chaque fois c'est quand même assez phénoménal. Il entre sur le plateau et je suis déjà dans un état second, mais ça marche aussi avec les autres. Moi Jean-Charles, ça fait un moment que je l'aime beaucoup. Camille Chamou aussi, on la voit de plus en plus souvent sur les scènes et ça c'est tout à fait réjouissant. Mais justement, passant après dans la biche, on voit tout à fait autre chose. Camille Chamou notamment fait une madame comment ça s'appelle, l'englumée, tout à fait inquiétante, très borderline. Enfin, il y a quelque chose dans la corporéité qui est très intéressante chez elle. Les deux hommes sont sur des tonalités aussi différentes. Et le plaisir aussi d'un double programme, c'est d'avoir des interprètes qui peuvent nous montrer des partitions légèrement différentes, parce que c'est ça aussi, c'est des petites variations. Laura Capel.
Oui, j'allais simplement rajouter que Camille Chamou a une manière de désarticuler son corps, de travailler presque comme un pantin par moment dans la pièce, qui renforce absolument le côté grinçant de la mise en scène, tout en laissant résonner parfois des phrases qui paraissent absolument évidente, et dont en fait on entend l'absurdité ou l'étrangeté,
l'inquiétude.
Grâce à la maîtrise du jeu, grâce au temps qu'ils prennent.
Marie Sorbier.
Oui, je rejoins juste ce que Florian a dit sur la scénographie, c'est-à-dire qui est assez élégante et plutôt réussie pour ce type de théâtre, parce que habituellement, ça peut être un peu lourd, ce type de scénographie, nous mettre un peu du carton-pâte et puis des salons bourgeois comme ça, qui pèsent un peu. Là, je l'ai trouvé au contraire très élégante,
très épurée
en même temps. Sobre, et en même temps, on est vraiment là où on est, donc c'est très clair. Mais avec exactement la même remarque que ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup d'objets, on se demande un peu pourquoi ils sont là, un peu inutiles. L'arrière-scène notamment, ces instruments qui font quand même envie, on se demande à quel moment ils vont aller se confronter à ces instruments. Ils y vont de temps en temps, mais leurs déplacements n'ont pas vraiment de sens, en tout cas je ne l'ai pas perçu. C'est un peu comme ça, laissé à l'abandon, comme les micros qu'ils prennent à des moments où je n'ai pas compris non plus l'intérêt de cette prise de micro. Et ce paperboard qui aurait pu en effet être un jeu, ou en tout cas un hors-jeu qui aurait été intéressant autour de la pièce, et finalement quasiment pas utilisé pour un dessin à un moment donné, encore une histoire absurde racontée, mais assez peu. Donc voilà, donc tous ces éléments autour qui auraient pu jouer ne jouent pas, et c'est peut-être un peu dommage.
Florent Guettet, pour conclure.
Ouais, alors, c'est vrai que j'ai dit ça, je l'assume, mais en fait ça ne m'a pas tant dérangé que ça, parce que je trouvais que c'était assez cohérent finalement.
Ah oui, ça reste ouvert.
Voilà, avec le fait qu'il y a des small talk, des petites discussions sur la jambe de Martha qui est en rééducation, enfin qui n'a rien à faire, enfin qui nous apprend rien vraiment sur le fil narratif, quoi. Et effectivement, et ces effets d'attente en fait de l'orchestre derrière qui n'arriveront jamais, enfin bon, pratiquement jamais, qui seront juste effleurés. Puis alors le micro effectivement qu'ils prennent de façon, j'imagine, presque improvisée, j'en sais rien, mais en tout cas pas forcément sur des
aussi ça souligne des segments quand même, les rares fois où ils le prennent.
Je dirais presque que c'est pour déréaliser certains mots en fait, pour je trouve qu'ils s'en servent pour guise d'emphase, notamment sur certains prénoms, comme pour rajouter un degré d'étrangeté.
Ah oui, c'est Viri Païef.
La scansion des
prénoms. Ils disent les prénoms de chacun à chaque phrase. On a envie de les étrangler, évidemment. Ça fait partie des trucs d'écriture qui fonctionnent quand même ici à merveille. Ouais. Bon, allez voir par vous-même ce double programme. Les guêpes de l'été nous piquent encore en novembre à Divan. Viri Païef, c'est un texte français de Tania Mogilevskaya, Et Gilles Morel, je suis en train de chercher si ce texte est publié. Il me semble que Viripayeff est publié en France. Aidez-moi, pendant que je signale que le texte de Jeanne Labiche, lui, s'appelle bien sûr L'affaire de
la... Les éditions Les Solitaires Intempestifs.
Merci beaucoup, Laura Capel. Vous avez un bon point. C'est une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcin. C'est jusqu'au 1er décembre à La Tempête. Il me semblait qu'il y avait des dates à venir, non? Je les ai inventées. Peut-être, je les ai inventées, mais je pense qu'il y en aura. Donc ce sera plus une invention au moment où elles existeront. À suivre dans la dispute infinie, Les Mille et Une Nuits, Cécile. Bon, c'est pas tout à fait le même genre de titre.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Infini, rien que ça, Boris Charmatz. Je n'ai pas pu voir ce spectacle qui sera présenté demain à l'espace 1789 à Saint-Ouen dans le cadre du Festival d'automne qui poursuivra sa vie en tournée. Là, j'ai les dates parce qu'elles existent. Peut-être dire Infini, c'est quand même un titre pas tout à fait anodin. C'est quoi l'idée de départ de Charmatz, Laura Capel?
On avait quitté Boris Charmatz avec 10 000 gestes, qui était un peu son dernier grand opus pour le musée de la danse quand il était basé à Rennes. Et il revient avec Infini. Et en fait, c'est un petit peu comme la deuxième partie d'un diptyque, là aussi, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire sur Viripayeff et la biche. Le geste qui structure Infini, c'est celui de compter. Donc sur scène, les danseurs comptent tout le temps. D'abord, ils comptent à rebours, de 120 jusqu'à 0. On reste sur zéro pendant un temps et ensuite on repart, on remonte, on reconstruit. Et au début, on a une structure un peu similaire à ce qui se passe dans 10 000 gestes avec pour chaque nombre un geste. Comme si chaque danseur indépendamment avait son vocabulaire qu'il était en train de développer. Et puis ensuite, il se retrouve, il y a une autre atmosphère qui naît dans cette pièce qui est beaucoup plus petite avec moins de danseurs. Ils ne sont que 6. Boris Charmatz lui-même est sur scène. Et sur une scène également donc qui est complètement nu, mis à part la présence parsemée sur scène de petits gyrophares, de mini gyrophares, qui créent une lumière tournante, mobilisée notamment plus fortement sur certaines scènes du spectacle, mais qui illumine le mouvement d'une manière un peu différente de ce qu'on avait dans 10 000 gestes.
136. Bon, ne vous endormez pas. Pas tout de suite. Premier sentiment sur Infini de Boris Charmatz, Florian Guettet.
Aristote disait qu'on ne devait pas régresser à l'infini. Charmatz répond qu'on peut à la fois régresser et être infini. Ça fonctionne plutôt bien.
Marie Sorbier.
Un concept qui, sur le papier, moi, me séduit absolument. Dans la réalité, peut-être un peu moins.
Et Laura Capel.
Un travail d'assez haute tenue pour moi sur une mesure chorégraphique démesurée.
Alors, on développe, pour en comprendre un peu plus les ressorts, cet infini Boris Charmatz, Florian Guettet.
Eh ben, je vais rejoindre les mots de Marie, puisque moi, sur les dernières expériences de Charmatz, mais en fait, même, il faut que je remonte à loin pour être vraiment dans l'adhésion avec ses spectacles, puisqu'à chaque fois, je suis très excité par la note d'intention, et puis, quand j'arrive, je suis un peu déçu par ce que je vois, en tout cas, j'arrive pas à y retrouver les attentes que j'y avais placées. Et là, je trouve que le décalage entre l'intention et la réalisation vraiment moindre, amoindri, comme s'il avait voulu synthétiser toutes des principes chorégraphiques, dramaturgiques, des méthodes de travail qu'il a élaborées depuis plusieurs pièces, qu'il les avait synthétisées dans celle-ci, et que d'un coup ça prenait sens, ou en tout cas ça faisait sens et ça prenait corps. En fait, si on devait comprendre déjà pourquoi il s'intéresse au conte, j'ai l'impression qu'il se pose la question de savoir si la danse est toujours structurée autour d'une métrique, autour d'une mesure comme ça du corps, hein, et 1 et 2 et 3 jusqu'à 8 en général, qu'est-ce qui se passe si on dépasse le 8, qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'à l'infini, est-ce qu'on perd la danse, est-ce qu'on perd le corps, et est-ce qu'il faut s'en émanciper du calcul, ce qui est une question hyper intéressante aujourd'hui, puisque tout est rationalisé, on est numérisé d'une façon assez radicale aujourd'hui, donc ce rapport du chiffre au corps me semble hyper pertinent aujourd'hui. Donc il parodie ce conte en danse, on les voit en fait tous les six dans une sorte d'autodérision sur les comptages de danse, alors que ce soit les danses indiennes, classiques, rock, urbaines, tout y passe, hein, c'est pas simplement l'académisme du ballet qui est visé. Il y a des formes de décompte ou de synchronisation qui me paraissent beaucoup moins gratuites et beaucoup moins formelles que justement dans 10 000 gestes, par exemple, où je n'arrivais pas bien à comprendre à quoi ça allait. Là, j'ai l'impression que ça avance, que ça nous dit quelque chose. Et qu'il y a même des formes de littéralité entre l'illustration du chiffre par le corps qui me semble là de tenir alors que je serais...
Par exemple,
quand on arrive au zéro, on a du mal à rester à zéro, on a du mal à arriver même à zéro. Et il y a une forme de bug comme ça entre le zéro et le 1, comme s'il y avait une forme d'obsolescence jusqu'à ce qu'on se résolve à l'immobilité et à l'inertie et qu'on y arrive. Ça peut être aussi, le 69 dit très lassivement, mais c'est aussi pour remettre un peu de la chair dans ce calcul-là. Le 2015, par exemple, quand arrive 2015, puisqu'il y a aussi les dates, là aussi on a une sorte de bug, de butée. Mais 2015, faut rappeler que c'est l'année des attentats, que Charmat avait déjà fait une pièce en résonance avec ça qui était Ronde de nuit, et qu'effectivement le trauma, c'est ce qui bloque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand il arrive à faire de la métrique, et au départ une méthodologie de danse, quelque chose de plus, quelque chose de mathématique, quelque chose d'astronomique, quelque chose de psychologique, quelque chose de politique avec les dates, quelque chose d'historique. Et à ce moment-là, j'ai trouvé qu'il avait réussi à donner un cadre à ce qu'il déborde.
Alors, Marie Sorbier a vie inverse, si j'ai bien compris. Intéressée au départ,
oui, parce que
pas par le résultat.
Non, parce que je trouve ça absolument passionnant, un chorégraphe qui s'intéresse à l'infini. Parce qu'il travaille avec une matière qui est le corps humain, et le corps humain, c'est quand même aussi l'archétype de la finitude. Alors on se demande comment il va articuler tout ça, et je comprends sa tentative, je comprends les gestes qu'il est en train de faire, et ça m'intéresse en amont et puis après le spectacle. C'est-à-dire que sur le papier, je trouvais ça super. Maintenant que j'ai vu le spectacle, je fais encore plein de liens, il y a plein de gestes qui me reviennent, des dates, parce qu'il faut dire que ce décompte, donc cette litanie de chiffres que crient les acteurs, enfin que disent les danseurs, pardon, qui parlent et qui chantent aussi beaucoup, c'est tantôt donc les moutons, comme on l'a entendu dans l'extrait, et puis à partir de la moitié du spectacle, ça devient une frise du temps. Et chaque date un peu... devient une date symbolique. Alors on a les dates classiques, 1515 Marignan, 2015 quand il vient de parler, puis chacun, on a l'impression que chacun a donné son avis sur une date qui compte pour lui, les dates de naissance, on a la date de naissance de Martin Luther King, donc il y a plein de choses comme ça qui devient un propos historique. Donc a posteriori ça me parle, mais l'expérience spectateur du pendant le spectacle, qui pourtant n'est pas long, hein, qui dure 1h10, j'ai eu quand même un sentiment de lassitude. Alors c'est certainement dû au fait qu'il y ait un concept qui tienne du début à la fin. On part de 120, on part de Gomorre, hein, il crie les 120 jours de Gomorre au départ, et puis après on revient à zéro, on tombe dans les décimales, et puis finalement on se met à repartir donc sur cette frise du temps. Ce qui m'a intéressé le plus pendant le spectacle, c'est je trouve qu'il a réussi à articuler l'individu et le groupe. C'est-à-dire que chaque danseur, on l'a dit, ils sont assez peu nombreux, chaque danseur est très individualisé et très personnel et peut, on a l'impression, s'exprimer de façon tout à fait intime sur les chiffres qu'ils projettent. Ça, c'est assez beau à voir, parce qu'on les voit très bien tous, on les voit dans leurs différences, ils ont des corps différents, c'est des gens qui viennent d'horizons divers. Ça, c'est assez beau à voir. Et en même temps, il y a des unissons qui fonctionnent très bien, des moments d'unisson de danse, et puis également du chant. On le sait, Boris Charmat utilise quand même beaucoup le chant a cappella, notamment dans ses spectacles. Là aussi, et ces moments-là sont assez beaux de communion par la voix quand ils ne le sont pas forcément par le corps. Il y a aussi une dissension entre les corps qui bougent d'une certaine façon, la voix qui décompte ces chiffres, et puis parfois ces moments d'unisson alors que les corps sont dispersés. Ça fonctionne assez bien.
Laura Capelle,
Oui, pour rebondir sur la question des individualités, je trouve que ce qui est très intéressant avec Boris Sharmatz, c'est que c'est pas du tout un chorégraphe qui s'exprime à travers une technique qu'il aurait développée et qu'il enseigne à des danseurs. Au contraire, lui-même en a pratiqué plusieurs et il a une manière d'amener des interprètes à lui en utilisant leurs individualités, leurs capacités à eux, qui est vraiment très belle et très perceptible dans ce spectacle parce qu'en plus ils sont peu, donc on s'attache à des figures. Je pense notamment à Raphaël Delaunay ou à Maud Le Pladec qui sont des chorégraphes par ailleurs, c'est-à-dire qui ont un sens très fort de leur, une conception très forte de leur propre mouvement, un rapport organique au travail qui fait qu'il n'y a pas besoin de leur donner le mouvement, de leur donner la béquille dans un spectacle comme celui-là. Et du coup, elles tracent leur propre ligne, en fait, dans ce spectacle, tout en rejoignant par moments le groupe, comme vous le disiez. Et c'est très intéressant parce que du coup, il y a une tension entre un chaos apparent par moment où chacun part dans son sens, où chacun a un mouvement, une réponse, à un nombre, à une date, et d'autres moments où tout le monde se rejoint et où on sent un souffle qui naît. Je trouve que c'est assez bien construit malgré tout. Je comprends l'effet de lassitude potentielle, mais je trouve qu'il maîtrise assez bien sur le plan dramaturgique en commençant donc par ce décompte où on sait qu'on va arriver à zéro. Donc il y a un effet d'attente, on se demande ce qui va se passer après. Il passe par ses décimales, etc. Et quand il repart et qu'on commence à comprendre qu'il va partir en direction des dates, en direction d'une chronologie, on se dit, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout? Mais on est lancé, je trouve, à ce moment dans le spectacle. Donc en fait, on a presque envie, moi j'ai eu envie en tout cas à ce moment-là, d'aller avec lui jusqu'au bout. Et même il va au-delà en fait, il dépasse 2020, il imagine des choses qui sont au-delà des dates et qui vont dans les millions à la fin. Et finalement c'est une belle représentation, je trouve, du travail de Boris Sharmatz et de sa capacité à tenir un concept dramaturgique sans sacrifier la qualité chorégraphique.
Florian Guettet.
Oui, puis moi, ça a même remis en place quelques idées sur cette gestuelle régressive, en fait, qu'il utilise depuis très longtemps, hein, que ce soit dans Enfant, bon, c'est sa régression à l'enfance, dans Ronde de nuit, c'est une sorte de régression contre, pulsionnelle, enfin, ou manger aussi, on revenait à la pulsion. Et là, je trouve qu'il y a tout ça, on est vraiment dans une atmosphère assez folle, assez délirante, sur un rythme assez engagé, assez frénétique, et il y a là, des régressions à figure du fou, de l'animal, de l'enfant. Comme si ça pouvait être une réponse à l'infini, parce que l'infini, après tout, c'est ce sur quoi vient buter tout le temps la raison, hein. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre rationnellement. Donc, est-ce que du côté de l'irrationnel, du fou, de l'enfant ou de l'animal, on peut trouver des formes d'incarnation de cet infini-là? Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que, je trouve vraiment que ça fonctionne. D'autant que il y a une façon aussi de rendre, ou en tout cas de matérialiser des sortes d'affects de l'infini. C'est-à-dire, on a beaucoup de cris, on a des postures qui sont proches du toc, qui sont proches de la compulsion, qui sont proches de sorte de pathologie en fait. On a vraiment une sorte de peur face peut-être à des événements, puisqu'on voit qu'ils se protège la tête, mais peut-être tout simplement à la frayeur qu'inspire en nous l'idée d'infini qu'on n'arrive de toute façon pas à domestiquer. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intelligent de pouvoir l'intégrer à l'écriture. Il y a l'infini aussi, parce qu'on parle souvent de l'infini comme débordement, mais c'est aussi l'infini en soi, l'infini qui est contenu entre le 0 et le 1, mais aussi l'infini qui est dans notre corps. Et là, on a des phases d'auto-affectation où les danseurs se partent de la nuque pour aller jusqu'aux pieds, pour aller mesurer cet infini en eux. Et donc on sent à ce moment-là une sorte d'inquiétude, voire de folie. On a cette agressivité aussi à un moment de la musique de cornemuse électrique ou synthétique, comme ça, comme si l'infini n'est pas forcément une belle idée, quelque chose de doux, mais c'était aussi une forme de terreur de l'humanité qui est confrontée à ce qui lui est radicalement autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien tenu chez Sharmatz.
J'allais justement vous demander s'il y avait de la musique et comment elle était utilisée, Marie Sorbier, donc de la cornemuse potentiellement électrique.
Ça arrive assez tard quand même.
Ouais.
Tout le début du spectacle est porté par leur voix, par la scansion des chiffres et des nombres, et puis par leur voix chantée, par des mots qu'ils projettent, mais la musique arrive, je dirais, aux deux tiers du spectacle, peut-être pas avant. Donc c'est pas l'élément, enfin la musique extérieure n'est pas du tout l'élément principal, mais elle peut être assez agressive en effet par moment, et puis après on l'oublie plutôt. Moi j'ai un sentiment assez diffus sur cette musique. Je retiens plutôt leur voix, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Mais je crois que ce qui m'a manqué finalement quand je vous écoute, c'est peut-être... J'ai été séduite intellectuellement, mais j'ai pas eu de sensations ou d'émotions, en fait. J'ai pas vu de moment de grâce. Alors, évidemment, intellectuellement, c'est très riche et toutes les figures que vous décrivez y sont et on les voit et donc c'est assez plaisant. Mais peut-être qu'il m'a manqué un vertige émotionnel ou quelque chose de cet ordre-là pour partir totalement.
Laura Capel, pour conclure cette séquence.
Oui, je voulais dire que j'avais eu plaisir à retrouver Boris Charnat sur scène, parce qu'il n'était pas dans Dimigest, et quand il était à la tête du musée de la danse, je pense qu'il y a d'autres problématiques qui se sont posées à lui à ce moment-là. Et c'est quand même un danseur, il a beaucoup travaillé sur son propre corps pendant longtemps, c'est un très bon danseur. Et pour autant, c'est pas quelqu'un qui domine le plateau au sens où il s'impose auprès des autres interprètes. Il est l'un des interprètes, il est un interprète parmi d'autres dans cette pièce, et il est très bon dans ce registre-là, et il a dit lui-même en tout cas que ça l'avait ramené à une forme de création qui part plus du plateau lui-même au lieu de travailler de l'extérieur. Est-ce que ça mène à notre meilleur spectacle? Pas nécessairement, mais c'est très intéressant de le voir jouer à nouveau avec ça. En tout cas.
On le verra, cet infini de Boris Charmat, demain, donc 19 novembre à l'espace 1789 à Saint-Ouen, c'est avec le Festival d'automne, en tournée alors à la Maison de la Culture d'Amiens, 28 novembre. Au Next Festival, le Phénix à Valenciennes, le 5 et 6 décembre, pardon. Après, on passe au mois de mars à Bruxelles, au Cahier de Théâtre, au CCN d'Orléans, de mars 25 au 28. Orléans, 29 avril, Manufacture CDNC, Opéra National de Bordeaux, 5 et 6 mai 2020. Et enfin, au Centre Européen et Théâtral Chorégraphique à Rennes, du 12 au 16 mai. C'est l'heure du coup de cœur. Le coup de cœur ce soir, c'est Marie Sorbier qui l'a pour Cécile de Marion Duval. De quoi s'agit-il ?
Alors Marion Duval, elle fait partie de cette jeune génération de metteurs en scène suisses absolument étonnante et que je vous invite mais grandement à découvrir parce qu'elle fait un théâtre que je n'ai jamais vu ailleurs. Alors Cécile, c'est une pièce assez perturbante, il faut le savoir avant d'y aller, on n'en sort pas indemne. Pourtant c'est un système extrêmement simple, c'est donc cette fameuse Cécile qui arrive sur scène et qui vient nous raconter sa vie. Le principe est vu depuis 10 000 ans. Elle arrive, il y a un tabouret, salle vide. Elle est habillée comme si elle allait faire ses courses ou prendre le métro. C'est une fille d'une trentaine d'années, totalement normale, vraiment la voisine d'à côté. Tout va bien jusqu'à ce présent. Elle s'assoit et puis là, elle nous explique dans un langage parlé, donc rien n'est écrit. On est entre l'improvisation et en même temps une dramaturgie très construite derrière. Elle va nous parler de sa vie. Et sa vie, en effet, elle en a des choses à raconter. C'est une pièce qui dure longtemps, qui change de durée selon l'humeur de cette fameuse Cécile. Donc moi, quand je l'ai vue, ça dure à peu près 3h30, mais ça peut durer 4. Comme ça peut durer 2. Quand elle en a marre, elle arrête. C'est très au présent. Moi, c'est ça qui m'a totalement bouleversée. C'est-à-dire qu'on est sur le fil en permanence et on ne sait pas à quoi on assiste. Alors, pour vous donner un exemple des types d'histoires qu'elle raconte, elle nous parle de sa vie, de sa vraie vie. Par exemple, elle a eu tout d'un coup une fibre écologique très grande qui a grandi. Et puis elle se disait avec ses amis, mais qu'est-ce que je peux faire? On va pas juste trier nos poubelles comme tout le monde. Et elle décide donc avec deux copains de créer un site de vidéos pornographiques qui s'appelle FFF, donc Fuck for Forest. Et donc les gens payent pour voir des films pornographiques et tout l'argent qu'ils ont récolté, ils ont planté des arbres avec. Voilà. Et donc tout ça est expliqué sur le plateau. Elle va nous montrer son site, comment ils ont fait. Et puis elle l'explique avec une simplicité absolument désarmante. Et puis ensuite, elle passe à son activité principale. Elle est clown à l'hôpital. Donc, on passe par des moments pour les enfants malades. Donc, on passe à des moments totalement terribles sur la confrontation à la mort de l'enfant chez qui elle est allée toutes les semaines. Et puis, le chapitre d'après, elle nous raconte que sur un malentendu terrible, elle a dû conduire un bus alors qu'elle venait d'avoir son permis la veille avec des enfants trisomiques et puis elle s'est retrouvée à gérer le camp de vacances de ses enfants en trop des activités alors qu'elle n'avait jamais été formée à ça. Et puis donc on a les photos de ce camp avec ses enfants, ce qu'elle leur a fait faire. Enfin, tout est totalement borderline et en même temps d'une humanité folle. C'est quand même un spectacle très étonnant qu'il faut voir avec à la fois du recul parce que je trouve que théâtralement, c'est ultra intéressant. Parce que Marion Duval, donc la metteur en scène qui nous permet de vivre ce spectacle, elle déconstruit tout ce qui est théâtre habituellement. Il n'y a plus de quatrième mur, il n'y a plus de personnages, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de temps ni de lieu fabriqué. On est totalement au présent, on pourrait être dans une conversation avec des amis dans un café, mais on est là, on est au théâtre, il y a une empathie qui se crée dans la salle, très étonnante, parce que cette fille, elle est tellement là, elle transmet tellement d'émotions et puis elle se livre tellement totalement que tout le monde est vraiment avec elle. Donc il y a de la chair de poule qui naît comme ça. C'est très, très, très étrange. Vraiment très étonnant. Et c'est... voilà, je pense que c'est vraiment à vivre une fois dans sa vie, bon, ce type alors, de
notamment,
spectacle.
Ça pourra être fait au Centre culturel suisse à Paris. C'est 4 dates, du 27 au 30 novembre. Alors, la durée, hein, ça, voilà, on a bien compris que ça peut être assez variable. Cécile, et c'est un spectacle qui se promène pas mal, qui tourne ?
Qui a tourné beaucoup en Suisse et qui va peut-être venir à Avignon, mais je ne peux pas encore.
Mais on ne peut pas le dire.
On ne peut pas le dire.
Mais c'est pas grave, c'est pas comme si on était en direct et que vous l'auriez déjà dit. Cécile, donc, de Marion Duval et Luca de Pietri. J'ai ces deux noms, moi, pour signer ce spectacle.
Alors peut-être. Moi, je n'en avais qu'un, mais...
Bon. Au cas où, voilà. C'est pareil. Il vaut mieux l'avoir dit que pas.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche, Les Mille et Une Nuits. Là aussi, ça peut durer assez longtemps. Une création de Guillaume Vincent, qui est en ce moment à l'affiche de l'Odéon, qui va elle aussi poursuivre sa vie en tournée. Alors, on se souvient peut-être du précédent spectacle de Guillaume Vincent, enfin l'un des précédents plus exactement, Songes et Métamorphoses, qui revisitait magiquement, à mon sens, Shakespeare et Ovid. Cette fois, c'est un des textes donc les plus connus, les plus profus de la littérature mondiale qu'il s'attaque. On va voir comment.
Tu attends quelqu'un ?
Non ! Personne !
Qui est là ?
Une dénommée Clara.
Clara ?
Clara !
Ah mais oui ! Clara !
Clara !
Ma professeure de...
Ah oui, oui.
Je t'en ai déjà parlé.
Oui, oui, bien sûr.
Tu l'as même rencontrée ?
Oui, oui, peut-être. Je la fais monter.
Non ! On n'a pas eu le temps de se dire au revoir.
Mais si, on n'arrête pas de se dire au revoir.
Tu veux sacrifier notre scène d'adieu ?
On ne va pas la faire attendre. Entrez ! Entrez, entrez ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, Clara. Votre Altesse. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de faire plus ample connaissance.
Mais vous vous souvenez de moi ?
Oui, oui, bien sûr. Je me souviens parfaitement.
Je viens ici tous les mardis et tous les vendredis soirs.
Parfait.
Vous êtes en avance, Clara.
J'arrive au milieu de la scène d'adieu.
Non, non, juste après.
On avait dit 20h.
J'ai noté 18.
Bon, je vous laisse. J'étais sur le départ.
Pas tout à fait.
Chérie, ça ne va pas recommencer.
Ça commence à peine.
Voilà, une des couleurs des Mille et Une Nuits, parce qu'il y a pas mal de couleurs, peut-être pas mille et une dans ce spectacle, mais on va expliquer un peu plus après un premier commentaire, un premier tour de table sur ces Mille et Une Nuits vues par Guillaume Vincent. Marie Sorbier.
C'est un spectacle plaisant et je trouve que le défi est plutôt réussi.
Laura Capel.
Alors, j'y ai vu de grands moments d'inventivité perdus parfois dans les méandres des contes.
Florian Guettet.
Mille et une font peut-être le conte, mais les Nuits d'Orient semblent bien voilées.
Oh, il a bien préparé, hein, Florian. Un bon point pour vous aussi. Marie Sorbier, il faut un peu expliquer. Alors, on a entendu une des scènes qui raconte une des histoires, mais il faut expliquer un peu les parties prises de cette adaptation et puis décrire un peu l'espace de jeu. Ça va être compliqué parce qu'il est lui aussi très profus, mais on va faire ça vite.
Oui, alors déjà commencer par dire que Guillaume Vincent a choisi de s'appuyer sur la traduction de Joseph-Charles Mardus. Alors, c'est un choix qui impacte totalement l'adaptation puisque c'est une version qui est clairement plus érotique, plus transgressive, moins expurgée que celle initiale qu'on connaît tous d'Antoine Galland. Alors juste, Mardus c'est 1900 et Antoine Galland 1700, donc il y a quand même une vraie différence d'époque. Et c'est pas étonnant qu'il ait choisi cette version-là, puisqu'il arrive avec quand même quelque chose d'assez... alors transgressif, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, érotique, oui. Alors, sur ces 116 contes, alors le chiffre est pareil, le nombre est un petit peu... Mais, partons sur ce nombre-là. Il en choisit une douzaine, Guillaume Vincent, encadrée par le récit initial, celui peut-être que tout le monde connaît, c'est-à-dire cette fameuse Scheherazade, fille du vizir, qui va défier le roi sanguinaire, roi qui, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait été trompé par sa première femme, décide de tuer toutes les femmes qu'il va épouser. Il en épouse une par jour, il l'épouse le soir et il la tue au matin. Tout ça dure 3 ans, je crois, dans le texte. Et puis, il reste plus beaucoup de femmes dans la contrée. Donc, il se retrouve avec la fille du vizir. Et elle dit, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je ne vais pas me faire décapiter, moi, demain matin. Et sa solution, c'est de raconter des histoires. Histoires qui ne finissent jamais, qui tient en haleine ce roi sanguinaire. Et ce stratagème va durer 1001 nuits. Ça, c'est pour le pitch de départ. C'est une structure de conte mise en abîme, puisqu'elle raconte une histoire. Et puis, dans l'histoire qu'elle raconte, eux-mêmes racontent des histoires. Et c'est un principe assez classique d'histoires qui se racontent comme ça et qui se suivent ou qui se suivent pas. Mais les personnages se retrouvent. On a des liens quand même entre chacune. Et puis, on comprend surtout le lien qu'en fait Guillaume Vincent, qui est assez clair, pour le coup, avec cette présence des femmes fortes. Enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Sur l'espace de jeu, ça ressemble un peu... Alors, on a une scène comme ça, qui ressemble à une salle d'attente. Quand le public entre dans la salle, il y a ces femmes habillées en robe de mariée qui sont sur ces chaises en plastique. Ça ressemble un peu à un salon de massage en Asie, un peu cheap comme ça, avec carrelé, avec des carreaux de couleur au mur.
On laisse parler votre expérience.
Exactement, ma grande expérience asiatique. Mais ça ressemble
des salons de massage.
Tout à fait. Mais ça ressemble un petit peu à ça, avec sur la partie du haut du plateau, les carreaux sont remplacés par des guirlandes à reflets miroitantes. Alors on est entre l'Inde, l'Asie, l'Orient, enfin tout ça est très coloré. En même temps, avec ce côté un peu kitsch et cheap, qui va bien fonctionner un peu beaucoup, ouais, peut-être. Qui va bien fonctionner avec la suite du spectacle. Et puis, de temps en temps, un rideau de scène qui coupe la scène en deux dans le sens de la longueur. Et c'est un rideau noir avec plein de petites étoiles, comme ça, un rideau étoilé qui peut s'opacifier au besoin, selon les besoins de la scénographie.
Voilà, qui est fort bien décrit. C'est vrai que ces étoiles et ce que vous appelez le kitsch, c'est un goût assumé et revendiqué depuis longtemps par Guillaume Vincent.
C'est quand même, j'ai oublié un élément essentiel. Sur ce mur carrelé, il y a 3 portes.
Ouais.
Une porte qui va mener principalement chez le méchant roi, et puis 2 autres portes qui vont servir pour les allées et venues de tous ces personnages.
Tout à fait. Alors, Laura Capel.
Alors, j'étais très partagée sur ce spectacle parce que j'ai eu l'impression qu'au fil des mises en abîme, j'ai un petit peu perdu en fait la raison d'être de ce que faisait Guillaume Vincent. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec Songe et Métamorphose qu'on avait vu donc aux ateliers Berthier du même metteur en scène. En y repensant, oui, tout à fait, on voit son intérêt pour les contes, pour cette frontière entre fiction et réalité avec laquelle il aimait déjà beaucoup jouer dans ce spectacle et qu'on retrouve ici énormément. Je suis complètement rentrée dans la première scène que j'ai trouvée assez forte, qui est donc qui commence avant même qu'on rentre dans la salle de spectacle. Alors c'est dans le salon de massage où bon, j'ai pas vu un salon de massage, mais bon,
c'est marié à l'abattoir, hein. C'est même de ça qu'il s'agit. Hein.
Exactement. Et dans cet espace, en fait, quand on voit ces femmes rentrer une à une en robe de mariée, terrifiées, qui ne disent quasiment rien, avec juste en fond des grésillements, et quand une porte s'ouvre pour les laisser rentrer, quelques notes de Rimsky-Korsakov, de la musique de Scheherazade, qui est inquiétante ici au possible, avant qu'on entende ce buzzer qui ouvre les portes centrales et qui les appelle une par une à aller retrouver le roi et donc à voilà, se faire décapiter. Au fur et à mesure, à chaque fois que les portes s'ouvrent, on voit le sang qui a dégouliné sur les murs de l'escalier qui mène à cette salle. On voit la panique des femmes et Guillaume Vincent arrive à traduire très bien cette espèce de menace diffuse de ce moment, sans nous montrer le roi, sans nous expliquer, on s'en doute fortement, mais sans nous expliquer réellement ce qui se passe sans dialogue. Et là, c'est très très puissant. Et je trouve que quand on rentre par contre dans les contes, dans le dialogue, dans le détail de certaines histoires, moi je perds un peu l'intérêt du spectacle parce qu'on est plus dans l'anecdotique, parfois, j'ai trouvé.
Avec une alternance. Comme dans le résumé fort bien fait de Marie Sorbier, vous dites des femmes, des vierges. Quand même, évidemment, ce qui n'est pas tout à fait rien par rapport à cette question du sang aussi. Florian Guettet.
Moi, je trouve qu'on est, en tant que spectateur, on est assez écrasé en fait par la scéno. Moi, j'ai adoré la première pièce, la première introduction, effectivement, très saisissante. Et puis après, finalement, j'ai trouvé que ça suivait moins en fait.
et que cette esthétique très très colorée, très appuyée, alors un kitsch revendiqué, assumé.
Bon, qui n'est pas votre goût, Florian, ça se voit quand vous en parlez.
Non, mais au-delà de ça, vous savez, je juge pas qu'avec mon goût, mais au-delà de ça, j'ai trouvé déjà d'une que ça étouffait le jeu un petit peu, parce que il y a quand même une distribution formidable. On peut quand même les citer, au moins Émilie Incertif-Formantini, oui, Makita Samba.
Les fétiches de Guillaume Vincent.
Makita Samba et Mustapha Benaïbout, pour eux trois en tout cas.
Et Andrea Alazan qui est Scheherazade.
Voilà, merci de compléter. Mais j'ai trouvé en fait qu'il y avait, d'un côté, ça ramenait, en tout cas, ça rejetait la culture orientale du côté de l'opulence bling au lieu de quelque chose de plus raffiné en fait qu'on pourrait supposer. J'ai trouvé qu'il y avait une forme de facilité avec de jouer avec ce décor pour forcer un peu la main à des anachronismes qui me semblaient pas toujours justifiés, qui s'inspire, s'incarne parfois dans des dialogues, mais vous êtes fou, oui, on a compris. Enfin, des choses, des jeux de mots un peu faciles, le salon de mariage un peu animé par un animateur ringard qui arrive pas à faire son tour de magie. Moi, je sais pas trop ce que ça m'a apporté narrativement. Et puis surtout, ça donne une portée extrêmement visuelle à ce qui est normalement un conte. C'est-à-dire que ça ramène vraiment de la dramaturgie du côté de la scéno au lieu du côté de la narration et du récit. Et ça m'a gêné parce qu'en fait, l'origine, en fait, les origines multiples de ce conte qui est passé par l'Inde, par la Perse, qui est retourné en Égypte, qui ensuite a été récupéré par les Ottomans. Enfin, bon, effectivement, il y a comme ça toute une trajectoire assez bigarré, assez multiculturel de ce récit-là, mais c'est des récits sans illustration et ça devient un récit illustré justement avec les occidentaux et notamment au 19e, c'est-à-dire par retour on revient à quelque chose d'incarné. Or précisément, et Guillaume Vincent le dit souvent, ce qui l'intéresse lui dans cette reprise-là, c'est de se dire finalement l'art peut sauver la barbarie, mais c'est pas n'importe quel art, c'est le récit, c'est la littérature, parce que la littérature a le pouvoir de tenir en haleine, elle a le pouvoir comme ça de suggérer des choses, alors que l'image elle se donne dans un instantané. Et donc on a une suite comme ça, j'ai trouvé, d'instantanés qui ont un vrai pouvoir, une vraie influence, une vraie séduction, mais qui moi m'ont pas emmené dans une forme de continuité qui aurait fait que je serais en haleine ou tenue en haleine tout le long du spectacle.
Marie Sorbier.
Moi j'ai été particulièrement touchée par ne serait-ce que l'idée du spectacle, c'est-à-dire que la fiction, que l'acte de raconter une histoire puisse à la fois sauver des vies et soigner peut-être celui qui écoute, puisque finalement ce roi, pendant qu'elle lui parle, il ne tue plus, il n'est plus un meurtrier. Je trouve que c'est une thématique magnifique. Moi, j'y ai vu un clin d'œil au théâtre contemporain qui parfois se défie un peu aujourd'hui du récit ou de raconter des histoires. Alors peut-être qu'il y a eu une affirmation comme ça en disant mais non, l'histoire est quand même, le récit est quand même important au théâtre. Le réaffirmer de cette façon-là, j'ai trouvé ça assez assez charmant et plutôt juste. Et puis il y a deux scènes qui m'ont particulièrement plu. Et puis le reste, en effet, il y avait quand même un peu des montagnes russes d'attention. C'est-à-dire que c'est parfois très bien, et puis parfois on tombe dans des creux comme ça, un peu de vide, où j'ai un peu perdu le fil. La scène inaugurale, on en a parlé, qui est quand même extrêmement réussie, avec son répondant dans la deuxième partie, où les hommes, eux, se font émasculer alors que les femmes se faisaient décapiter au départ. Et puis, j'ai trouvé très juste la scène sur Umm Kalsoum, qui clôt la première partie et qui répond particulièrement bien à l'ensemble, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment il n'a pas adapté uniquement les contes qui ont été ramenés d'Inde, de Perse et du monde arabe, il a lui-même ajouté une partie contemporaine, des nouveaux contes et des nouvelles histoires à son montage. Et cette partie sur Umm Kalsoum est celle certainement qui m'a le plus touchée en termes de récit.
Oui, c'est vrai que ça clôt très fort, mais justement la moins fictive. Mais je pense que moi je l'ai vu comme vous, Marie, hier après-midi, donc ça n'a pas eu le temps de faire beaucoup de chemin, mais quand même, je pense que ce sentiment d'inégalité dans l'attention et dans la facture, je pense que c'est en fait assez juste par rapport à ce que c'est aussi que les contes des mille et une nuits, c'est-à-dire que tout n'est pas tout le temps captivant, il y a des contes qui sont moins bons que d'autres, sauf qu'il faut arriver à finir, comme cette première partie, il y a un entracte, on finit sur Umm Kalsoum, on n'a qu'une envie, c'est de voir qu'est-ce qui se passe après, donc on marche aussi comme spectateur. Et je pense qu'il y a une construction qui joue de la littéralité, non-littéralité, de l'illustration, pas d'illustration, parce qu'il y a des contes qui sont joués, il y a des contes qui sont compté par les uns par les autres, il y a sans arrêt beaucoup d'alternance, beaucoup de richesse en fait, comme cette proposition des mille et une nuits qu'on n'arrive pas à embrasser tout d'un coup. Enfin, c'est quand vous voyez les volumes de Pléiade, c'est quand même assez épais et long, et je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui joue sur la durée, sur du comique, du tragique, et que en fait tout est permis, et que le kitsch et le merveilleux je pense, ont raison de se côtoyer dans ce spectacle-là. Mais ça, c'est une... parce que j'aime aussi Guillaume Vincent, et que je suis sûr qu'il y a des tas de... que tout cela, il en est assez conscient. Alors que même au sortir de la salle, j'étais un peu... je me dis, ah oui, ça marche plus ou moins bien selon les moments. Vous avez une minute à trois pour commenter ce que je viens de dire, peut-être. Florian Guettet.
Non, mais ça aurait été sur l'orientalisme, en fait. J'ai l'impression que qu'il veut s'en défendre, que justement, quand on a Korsakov, il évoque Mozart, etc., c'est pour s'en dédouaner, mais qu'en fait, il plonge quand même dedans, que c'est quand même hyper occidentalisé, que c'est quand même un récit de fantasme d'occidentalisme.
Bah oui, mais je pense que c'est assumé aussi.
Les mille et une nuits. Bah, ça remplace quand même plein de clichés par d'autres, hein. Effectivement, il va pas prendre Sinbad, Aladdin, ou, etc., mais il va ramener l'acteur qui, pendant une audition, se rend compte qu'on ne l'enferme que dans le rôle du terroriste. Bon, est-ce que ça va vraiment renouveler notre rapport à l'Orient? Pas sûr.
Non, il a pris les 35 secondes d'une minute. Laura Capel.
C'est vrai que c'est la nature des mille et une nuits, mais j'aurais aimé qu'il décide peut-être s'il voulait vraiment aller dans la direction des échos contemporains de certaines scènes, telles qu'il les met en scène, dans la première scène, je pense à d'autres moments aussi, ou pas vraiment, ou être dans le conte tout simplement. Je suis restée entre deux, mais bon, c'est un spectacle qui a ses charmes.
Et en Marie Sorbier.
Oui, juste dire quand même que la ligne de force, enfin que moi que j'ai repéré, c'est quand même les femmes, et qu'il y a cette succession de femmes qui sont fortes, qui n'ont pas besoin d'hommes cruels, et qui n'ont pas besoin d'hommes.
Qui mènent le jeu.
Et voilà, et ça c'est quand même assez intéressant comme axe.
On est d'accord. Les Mille et une nuits, création de Guillaume Vincent, inspiré des Mille et une nuits, c'est en ce moment, et jusqu'au 8 décembre au théâtre de l'Odéon. Le jeu de la dispute avec David Dana, et un rappel d'abord, David, de la question de vendredi et sa réponse.
Dans combien de films d'Abel Ferrara, William Dafoe a-t-il tourné? Et la réponse est 5.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Narcisse et Echo, à voir le vendredi 13 décembre dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau Théâtre de Montreuil. Quelle est la question?
De quelle œuvre est inspiré le spectacle Narcisse et Echo?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucine Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son Jean-Frédéric, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, dispute musique avec Sophie Rosemont, Joseph Gosse, Olivier Lam. Nous parlerons de Sloan, d'Omar Suleiman, du dernier disque de Leonard Cohen, Thanks for the Dance, et de son livre ultime, interview et conversation. Et un journal de la dispute sur l'omniprésence de la trap.